Paso doble.
Paso doble.
Mardi, expo.
Bonjour Franck Vogel.
Bonjour.
Vous êtes photographe? Je devrais même dire photographe et reporter, photoreporteur. Et depuis quelques années, vous travaillez sur l'eau, l'enjeu de l'eau. Et actuellement, à Paris, dans le 16e arrondissement, il y a une expo de votre voyage aux États-Unis autour du Colorado, le fleuve qui n'atteint plus la mer. Une exposition donc au pavillon de l'eau. C'est avenue de Versailles à Paris dans le 16e, je le rappelle. Et en même temps, sort votre livre « Fleuve, frontières, la guerre de l'eau aura-t-elle lieu ?» puisque vous avez travaillé sur quatre fleuves emblématiques. Le Brahmapoutre, le Nil, le Jourdain et le Colorado, qui nous intéresse aujourd'hui dans cette semaine consacrée à l'Amérique. C'est quoi l'enjeu? Parce que c'est vrai que dans cette élection américaine, avec comme finaliste pour le poste de président de la République Hillary Clinton et Donald Trump, tous les enjeux environnementaux ont été écartés.
Tout à fait, oui, c'est vraiment ça en fait. En fait, le Colorado, moi, j'ai appris juste un peu avant de partir, quand j'ai commencé à faire mon enquête sur le Colorado, qui n'atteignait plus la mer. C'est pas une information qu'on sait. Le grand public n'est pas trop au courant.
Et que c'est nouveau,
date de seulement 10 ans. C'est vraiment récent. Et c'est lié à une erreur, à la, en fait, ce problème de manque d'eau, enfin de quasiment plus d'eau qui place côté mexicain, c'est vraiment lié à une surexploitation de l'eau par l'Imperial Valley et par l'agriculture. En fait, il faut savoir que sur l'ensemble de l'eau du Colorado, 85% est utilisée pour l'agriculture. Alors, pareil, ça c'est un chiffre moi j'ai été très très surpris quand j'ai découvert ça. Et 70% de cette eau va dans l'Imperial Valley, qui est c'est une zone aride, semi-aride dans le sud de la Californie, et qui est, en fait, il y a environ 300 fermiers qui sont installés là il y a plusieurs générations, et qui accaparent donc 70% de l'eau du Colorado. Mmh. Et c'est pas Las Vegas, contrairement à ce qu'on pourrait penser.
Ouais,
ou Los Angeles, voilà.
Alors, et vis-à-vis de ce problème, comment les politiques, les lobbies aux États-Unis essayent de trouver une solution?
Alors,
quoi l'enjeu?
Alors l'enjeu, c'est, en fait, pour faire simple, les fermiers sont un peu protégés. Il y a un lobby très très important des agriculteurs aux États-Unis. Et moi, j'y étais en fait pendant la grande sécheresse. C'était en 2015, en avril 2015. Et c'est là, j'étais juste à l'époque où le gouverneur de Californie avait décrété qu'il fallait ne plus arroser les pelouses. Enfin, c'était vraiment un enjeu national. Il n'y avait plus d'eau. Enfin, enjeu de la Californie, il n'y avait plus d'eau. Les nappes phréatiques étaient au plus bas historique. Enfin, voilà.
Et ça ne s'est pas arrangé depuis, d'ailleurs.
Et ça ne s'est pas arrangé. Et ça continue. Enfin, là, ça stagne. Enfin, ça ne baisse pas plus, mais ça stagne. Le niveau des nappes phréatiques. Et en fait, lors de tous les débats que j'ai vus à la télé américaine, ils ont focalisé sur tous les autres problèmes que l'agriculture. Alors que c'est le problème majeur. J'ai rencontré un professeur de l'université d'Arizona qui m'a dit « Le problème de sécheresse en Californie peut être réglé très facilement. » En fait, il faut savoir que dans l'Imperial Valley, il y a donc 70% de l'eau qui est accaparée, mais ils produisent principalement de la luzerne, qui est très très vorace en eau. Et cette luzerne, en fait, donc elle pompe beaucoup d'eau. Ce professeur m'a dit « Si on arrête d'irriguer pendant les 3 mois d'été l'Imperial Valley, donc en gros, elle perdrait 6% d'eau, ça permettrait à la Californie d'avoir 2 fois plus d'eau. Et donc, le problème est réglé. Mais ça, personne n'en parle. Il y avait dans tous les débats, il y avait beat the drought, enfin vraiment il faut se battre contre la sécheresse, il faut faire des choses. Il y avait débats partout, à la tête de toutes les télés, mais jamais on n'a parlé de ce problème-là. Jamais. Et je pense vraiment que c'est un problème, enfin, c'est tous les lobbies qui poussent et c'est un peu le modèle américain, l'agriculteur, le Far West, on vient là, les cow-boys, enfin tout ça. On est vraiment dans cette représentation de l'Amérique. Et je pense que pour un président ou un futur président, c'est très compliqué d'attaquer ce symbole qui est très fort en fait.
Alors, vous dites que le Colorado désormais n'atteint plus la mer. Ça veut dire quoi en termes écologiques?
Alors, en termes écologiques, c'est que le delta. Donc, si on imagine le Colorado qui passe la frontière au niveau du Mexique, il y a un barrage qui a été construit par les Américains. Et juste avant, il y a un canal qui s'appelle All American Canal, qui vient alimenter toute l'Imperial Valley. Donc, il a été construit dans les années 30. Et donc, il prélève 70%. Il y a un autre canal qui va alimenter Phoenix et Tucson, en Arizona. Et en fait, j'ai été avec un pilote bénévole d'une association qui s'appelle Loud Hawk, qui fait des tours en avion gratuitement pour des journalistes ou des spécialistes de l'environnement qui veulent montrer les choses, enfin expliquer les choses. Et donc, il m'a emmené survoler la zone, le delta, côté mexicain, côté américain. Et c'est là que j'ai découvert le désastre. C'est que il y a une photo, en fait, que j'ai prise au niveau de la frontière. Il y a ce canal qui va jusqu'à l'Imperial Valley. Il y a le barrage. On voit le Colorado qui arrive là. Après, côté mexicain, il n'y a plus rien. C'est une petite rigole d'eau. Et quand on va un peu plus loin, il n'y a plus rien. C'est totalement sec. Et en fait, c'est magnifique graphiquement. Quand on voit au niveau des images, ça fait un peu comme des racines d'arbres qui s'étendent, mais en fait, il n'y a plus rien dedans. Le seul liquide qui est, c'est de l'eau de mer qui arrive pendant les grandes marées. C'est tout. Et donc, en fait, toute cette zone, le delta, qui était une zone très, très riche en biodiversité, beaucoup d'oiseaux, enfin voilà, a fondu elle était à 780 000 kilomètres carrés. On est passé à 60 000 aujourd'hui. Donc, c'est vraiment plus rien. Il y a des ONG qui se battent, enfin, des instituts qui essaient de replanter des arbres parce qu'il y a eu il y a eu un peu d'eau qui est arrivée, qui a été relarguée il y a 2 ans suite à l'appel de Robert Redford qui avait dit, c'est pas possible. Ce fleuve, notre fleuve mythique, n'atteint plus la mer et aux États-Unis, personne ne le sait. C'est pas possible. Donc, il a poussé une gueulante. Et il a été entendu, mais pas énormément non plus. Donc, ils ont décidé d'ouvrir pendant 5 semaines les vannes du barrage Morelos, qui est à la frontière. Et donc, il y a eu un afflux d'eau pendant 5 semaines qui a coulé. Mais ce n'était pas suffisant pour que le fleuve atteigne la mer. Il est arrivé à peu près à 60
km. Mais ce n'est pas seulement la faute des barrages, c'est aussi parce qu'il y a moins d'eau.
Exactement, il y a moins d'eau. Alors, voilà, il y a plusieurs problématiques. Il y a les barrages, bien sûr, il y a le pompage à travers les canaux, et il y a aussi le réchauffement climatique, il y a moins d'eau. Et là, sur ce point-là, j'ai travaillé avec un chercheur, un professeur de la NASA, qui a réussi à démontrer de manière scientifique qu'avec le réchauffement climatique, les zones arides, par exemple le désert en Arizona, où les Navajos vivent, est de plus en plus sec. Et il y a de plus en plus de poussière, de sable, qui est généré par ça, à cause des voitures qui passent sur les routes, enfin voilà. Donc il y a de plus en plus de poussière de sable, et en fait il a réussi à démontrer que cette poussière de sable, lors de tempêtes, allait se coller sur le manteau neigeux à 300 km de là, dans les montagnes San Juan. L'étude a été faite là, mais ça, c'est aussi pour les rocheuses, hein. Mais dans les montagnes San Juan, et en fait, en 2013, donc c'est là où l'étude a été faite, cette poussière de sable va se coller sur la neige, et donc l'effet albédo, bon, c'est un terme technique, mais en fait c'est combien la neige va réfléchir le soleil, et donc pas fondre. Donc en gros, quand la neige elle est plus sombre, elle va fondre plus vite. Et en 2013, on était au niveau le plus bas de tous les lacs, Lake Mead, Lake Powell, tous ces lacs, parce que toute la neige avait fondu 2 mois avant la date normale. Donc, il n'y avait plus d'eau pendant 2 mois qui arrivaient. Et donc, tout, ça séchait. En plus, il faisait très chaud, donc l'évaporation. Et ça a été démontré scientifiquement par la NASA. Et pareil, on en parle très peu, quoi. Et donc, l'impact est... En fait, c'est multi-impact. C'est le réchauffement climatique, la surexploitation de l'eau par les États-Unis vis-à-vis, par rapport au Mexique. Et personne... maintenant, on connaît les infos. On sait comment plus ou moins régler le problème. Si le professeur de l'Université d'Arizona a raison, le problème est simple à régler. C'est pas là, le réchauffement climatique est faible par rapport à ce qu'on pourrait économiser en donnant un peu moins d'eau à l'Imperial Valley, par exemple. Et, Et voilà, enfin, pour moi, c'est un problème simple à régler, mais les politiques ne veulent pas s'en...
Les lobbies, vous voulez dire?
Oui, les lobbies. Mmh. Ouais, voilà, voilà.
Alors, ce qui est très étrange dans ce que, dans votre travail, Franck Vogel, et vous êtes sans doute, confronté à ce paradoxe, parce que ce que vous nous racontez, c'est quand même une situation dramatique, et pourtant, les photos que vous nous ramenez de, par exemple, là, du Colorado, elles sont renversantes de beauté.
Alors, oui. Oui, c'est... En fait, mon objectif, c'est de montrer, parce que ça reste de la, il y a de la beauté. C'est quand même, il y a des zones magnifiques, tout le Grand Canyon, enfin toutes ces zones-là sont vraiment magnifiques à photographier. Il y a quand même encore de l'eau, mais même la partie qui est la plus dramatique, la partie mexicaine, le delta asséché, en fait, c'est graphiquement magnifique. Surtout vu du ciel. En bas, c'est pas pareil. Mais vu du ciel, c'est magnifique. Ça fait des bras, des styles de racines qui s'étendent un peu partout. C'est devenu des bras morts du Brahma Poutre. Mais c'est graphiquement magnifique. Et l'idée, c'est aussi de faire prendre conscience que cette beauté est fragile. Alors, ok, d'accord, le delta est beau. Mais si on ne change pas les habitudes, le Colorado risque de mourir.
Alors, comment vous faites, vous, qui passez que par l'image? Parce que là, quand on vous entend parler, vous avez tous les arguments pour nous alerter, pour décrire cette situation. Vous pouvez le faire aussi par écrit, c'est ce que vous faites effectivement dans votre livre, parce que là, vous pouvez accompagner vos images par des explications en donnant, entre autres, la parole aux scientifiques. Mais en tant que photographe, vous vous posez la question comment rendre compte d'une situation alarmante à travers une image?
Oui. Enfin, j'essaie d'imaginer comment je vais raconter l'histoire avant de partir. J'ai déjà une idée, petite idée, mais souvent, j'apprends des choses sur place. Donc, une fois que j'ai une situation, je sais que, par exemple, l'Imperial Valley, la surexploitation par ces fermiers. Et voilà, là j'ai découvert par hasard, c'était vraiment un hasard, je découvre cette ferme en sillonnant l'Imperial Valley, cette ferme énorme. Je voulais montrer que produire de la viande dans cette zone aride, c'est une aberration. Donc on m'avait parlé qu'il y avait quelques fermes qui produisaient, enfin qui faisaient de l'élevage. Et là, en roulant, je tombe sur une ferme, donc j'étais très content. Je me dis, oh, super, je vais sortir, faire quelques photos. Et là, il y a quelqu'un qui s'arrête tout de suite avec un pick-up et qui me dit, non, mais nous, on veut pas de photos. Je dis, ok, pas de problème, on peut se rencontrer demain. Je fais un travail sur, les fermiers. Je pouvais pas dire exactement ce que je faisais. Je fais un travail sur les fermiers dans l'Imperial Valley, voilà. Et donc, je l'ai rencontré le lendemain matin, c'était le responsable. Et donc, j'ai pu rentrer aussi dans cette ferme. Et surtout, j'ai découvert le nombre de bovins qu'ils élevaient. 90 000 têtes, en plein désert. Il faut imaginer le truc, hein. Je roulais, j'étais avec ma voiture, et je me dis, ça s'arrête plus. Je reviens en arrière, je regardais le compteur, 3,2 km de longueur, que des vaches. Sur 800 mètres de large. Et il fait 45 degrés, quoi. Ils ont même des sprinklers pour arroser les vaches, tellement il fait chaud. Ils ont des styles de haut vent qu'ils ont installés. Et il y a une donnée qu'on peut très facilement trouver maintenant, hein, dans les informations. Il y a des études qui ont été faites là-dessus, sur la quantité d'eau consommée pour produire juste un steak de 200 grammes. Un steak de 200 grammes demande 3550 litres d'eau. Alors, dans ces 3550 litres d'eau, c'est pas ce qu'elle va boire, la vache. C'est l'eau nécessaire pour produire cette luzerne, principalement. Ça représente environ 90% de cette eau. Et on est en plein désert. C'est ça qui est complètement fou, parce que cette zone, à la base, l'Imperial Valley, était censée nourrir l'Amérique en légumes, principalement les légumes, durant l'hiver. Et en fait, les fermiers se sont rendu compte qu'ils pouvaient gagner beaucoup plus d'argent en plantant la luzerne, et surtout de ne pas perdre d'eau. Parce qu'en fait, la luzerne, c'est une des plantes qui dévore le plus d'eau pour vivre. Et donc, en fait, ils se sont rendu compte que grâce à ça, ils pouvaient avoir tous leurs droits à l'eau. En fait, c'est des droits qui datent de 1922, et ils avaient été distribués à l'époque, sauf que les calculs étaient mauvais. Parce qu'il avait beaucoup plu à cette époque-là. Et comme il a beaucoup plu, les années, enfin, c'était quelques années après, à partir de 1930, l'eau, enfin, il pleut beaucoup, beaucoup moins qu'à cette époque-là. Et donc, comme ils ont le droit d'utiliser cette quantité-là d'eau, bah, ils continuent d'utiliser, même si après, au Mexique, il n'y a plus rien qui passe. Parce qu'eux, ils ont droit à ça. C'est écrit dans la Constitution, c'est vraiment ça.
Et ça revient souvent, ça, dans les relations bilatérales entre le Mexique et les États-Unis. Y a-t-il une revendication mexicaine ?
Oui, il y a, bien sûr, bien sûr, bien sûr, il y a cette revendication. Mais en fait, il y a une contre-revendication où, pareil, il y a moins d'eau qui passe côté américain que ce qui serait censé passer. Et en fait, ils jouent là-dessus, les Américains, alors que les quantités ne sont pas les mêmes. Mais voilà, donc en fait, donc le Mexique dit oui, on n'a plus rien, on est complètement à sec. Et les États-Unis disent, bah, vous aussi, vous ne laissez pas passer d'eau.
Oh, you wild, raging river, like my woman's lips, you lure me, pipe piper of the desert, roll on to the sea, you're the same at noon or midnight, and I'd follow where you go, but you're planning no returning, you wild Colorado. If I had no love of life, I'd become part of your flow. But I fear the place you'd take me, you wild Colorado. Oh, you wild raging river, from the fountains of the mountains, you ripple down the valleys, growing wide and swift and deep. With what power you cut your canyons? How long ago? You're as wayward as my woman, you wild Colorado. If I had no love of life, I'd become part of your flow, but I fear the place you'd take me, you wild Colorado.
Avec l'exemple du Colorado qui vient clore votre travail entamé à quelques années d'abord entre l'Inde et la Chine pour le Brahmapoutre, mais aussi le conflit israélo-arabe avec le Jourdain, l'accès à l'eau du Nil et le conflit au Soudan, on a l'impression que ça y est, la guerre de l'eau est bien commencée.
Oui, oui, c'est triste, mais oui. En fait, par exemple, sur le Nil, la guerre de l'eau a déjà eu lieu. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas vraiment. Je le développe un peu dans le livre et dans le reportage que j'ai réalisé. La première guerre de l'eau sur le Nil a déjà eu lieu et elle a commencé en 1983. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, l'Égypte, avec le Soudan, a décidé de construire un canal qui allait court-circuiter toute une zone marécageuse, donc la partie sud du Soudan. Et donc, où il y avait plusieurs centaines, milliers de Dinka et d'autres tribus qui habitaient. Et eux, ils se sont rendus compte que si ce canal allait être fini, enfin, s'ils allaient vraiment réussir à relier ces deux parties du Nil, bah, ils allaient être à sec. Et ils ont décidé d'attaquer la machine qui construisait ce canal, aux deux tiers de la construction du canal. Et ça a débuté, en fait, la 25e année de guerre civile, et qui a donné naissance au Sud-Soudan. Et maintenant, c'est reparti. Mais moi, j'y avais été en 2012. C'était juste un an après la naissance du pays. Et tout le monde était heureux. Enfin, voilà. Et là, on se rend compte que ça repart dans d'autres... C'est autre chose. C'est plus lié à l'eau, là, ce coup-ci. C'est une guéguerre. C'est vraiment une guéguerre entre le président et le premier ministre, actuellement, à cause du pétrole, enfin, à cause de tout ça. Mais la guerre de l'eau sur le Nil a déjà eu lieu et a fait plusieurs centaines de milliers de morts.
Fleuve, frontière, la guerre de l'eau aura-t-elle lieu ? C'est le titre de votre ouvrage, Franck Vogel, et par ailleurs, l'exposition autour du Colorado, le fleuve qui n'atteint plus la mer, a lieu en ce moment et jusqu'au 30 décembre au pavillon de l'eau à Paris, dans le 6e. Merci, dans le 16e, pardon. Merci d'être passé ce matin.
Merci à vous.
Demain, suite de notre semaine consacrée à l'Amérique. Et demain, on parlera de la ressortie de film de Paul Verhoeven, Showgirls, en compagnie du critique Emmanuel Burdou. Bonne matinée.